Eh bien bonjour Christian.
Bonjour à tous.
On se situe dans votre quartier général de la réparation de l'électronique à Saint-Nazaire-en-Royans. Et avant de pénétrer dans l'atelier, un peu le nerf de la guerre en ce qui concerne la réparation, déjà une zone d'arrivage, on arrive juste chez vous, puis on voit une table avec différents appareils, des appareils qui arrivent au fur et à mesure.
Tout à fait, oui, c'est des gens qui déposent le matériel au lieu de le mettre en déchetterie. Ils sont amenés ici et soit ils sont recyclés ou soit ils sont mis en déchetterie, c'est-à-dire avec un tri sélectif plastique, métal, électronique, électrique. Alors ça peut aller d'un aspirateur par exemple, où j'ai pu constater que le moteur est encore bien bon. Alors j'hésite, pour le moment il y aura un diagnostic de fait par la suite. Soit il repartira en circulation, ou soit il sera complètement démonté, les plastiques séparés, le moteur récupéré pour récupérer les charbons par exemple, et ensuite ça part en déchetterie.
Alors un certain nombre de personnes, on voit des appareils très diversifiés, comment ils vous repèrent et ils viennent chez vous spontanément, comment ça se passe?
Comment ça se passe? La plupart du temps ça c'est par...
Par bouche à oreille?
Par bouche à oreille, tout à fait. Et depuis le temps, installé depuis janvier 2022, les gens ont pris l'habitude de me faire réparer soit de l'électronique, ça va de l'aspirateur par exemple, à l'ordinateur, la télévision ou des machines industrielles. On peut aller aussi sur place avec installation de... Je passerai après, on ira sur l'atelier ou sur l'installation par exemple de portails automatiques ou d'ouverture de fermeture, de commandes et ainsi de suite, ou industriel par exemple sur l'usine d'à côté, sur des dépannages des tuyaux de très haute puissance.
Voilà, vous êtes à même de pouvoir entrevoir les réparations de toutes ces machines bien différentes?
Oui, tout à fait. Pour chaque appareil, il y a une analyse qui est faite, c'est-à-dire une analyse de fonctionnement, c'est-à-dire comment ça marche. Après, on s'attaque quand il y a lieu d'être, par exemple, sur une télévision, on s'attaque après sur les cartes électroniques, évidemment, et savoir comment marche la télévision, c'est-à-dire comment marche l'électronique qui est embarquée dedans. C'est-à-dire qu'il y a une analyse petit à petit de ce qui est fait de la télévision, par exemple, ou d'une machine à laver, par exemple, sur la commande électronique d'une machine à laver. Hop, c'est pareil, tout est analysé, et une fois qu'on a trouvé la panne, alors après, c'est le changement du composant ou des fois, malheureusement, c'est le changement de la carte en elle-même parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont plus du tout réparables. C'est ça le gros problème d'ailleurs. Et on se retrouve après, une fois qu'on a changé la carte, et selon le coût d'investissement et la valeur de la machine, elle repart. Ou autrement, elle est démontée. Si la valeur de la réparation est trop élevée par rapport à la valeur de la machine, elle repart, elle sera démontée complètement et trié métal, plastique, électronique et ainsi de suite. Là, on peut voir là sur la carte électronique par exemple d'une machine à laver, je tairai le nom pour le respect de la marque, mais ce qui est un peu dommage, c'est que par exemple sur cette carte là, qui paraît assez complexe, on a deux microprocesseurs. Ces deux microprocesseurs détiennent des mémoires internes. Ces mémoires internes, ces microprocesseurs, on ne peut pas les changer sans faire appel au constructeur. Résultat des courses, on est obligé de changer la carte.
Ouais. Ça, c'est un grand classique des machines maintenant et de l'évolution technologique. Vous avez de l'expérience, justement. Peut-être au fil du temps, vous avez un peu une vue d'ensemble aussi l'évolution de l'électronique des différentes machines.
Tout à fait. J'ai travaillé longtemps dans l'électronique industrielle. J'ai commencé par électroménager, du style des téléviseurs, et radio, et ainsi de suite, amplification, son, dans le son. Une expérience de labo aussi, en électronique, sur de la recherche, sur des études. Après, travailler sur les premiers microprocesseurs embarqués de chez Rockwell, là je vous parle des années 80. Un travail très important aussi sur les cartes et les mises en mémoire de l'image, par exemple, ou du son. Et après, une belle expérience de plus de 23 ans dans l'électronique.
On peut parler de culture de l'électronique, tant il y a un paysage diversifié de machines, de philosophies.
Tout à fait. Et ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est que Bon, c'est ça aussi qui me. C'est une passion que j'ai toujours gardée. C'est pour ça aussi qu'existe Artelec. C'est parce que j'en avais marre de voir tout ça qui partait à la déchetterie sans qu'on puisse retraiter et en faire autre chose. Donc il y a pas mal de choses qui sont récupérées, qui sont modifiées et remises en circulation ou pour faire autre chose avec. Avec Electronix, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, je parle de commandes, de. Du son, de l'image, on peut faire plein de choses, et ça c'est le top du top, quoi. Alors avec une belle expérience dans le son aussi, avec travailler dans des marques assez très connues et qui sur Lyon, qui m'ont permis de côtoyer le très haut de gamme de ce qu'on appelle la haute fidélité en son.
Donc ça, c'est aussi des appareils qui correspondent à différents schémas. Vous avez aussi la manière d'aborder chaque appareil et un peu aussi où vous dirigez un petit peu dans les pannes où...
Évidemment, je ne vais pas dépanner un ampli son comme je vais dépanner un aspirateur. D'abord, il faut savoir comment marche un ampli et découper toutes les cartes et tous les éléments électroniques qui sont dans l'ampli pour pouvoir intervenir. Si on ne sait pas ce qu'on a... Si on ne connaît pas, c'est pratiquement impossible de dépanner. Il faut d'abord donc ce que j'appelle l'analyse, c'est-à-dire qu'on va prendre la carte électronique concernée, par exemple, et on va analyser ce qui s'y passe dessus, ou ce qui s'y passe surtout pas, quoi. Donc la panne.
Alors là, tout un tas de cartes électroniques, par exemple, là, vous allez au fur et à mesure un petit peu tout analyser, ce qui est contenu.
Non, ça, c'est mort, ça.
Ah, tout ça, c'est mort. Ah oui, ça pas. Alors, la déchetterie, du coup ?
Non, ça, il y a des cartes où on récupère, par exemple, sur cette carte-là, il y a des choses très intéressantes, des relais de puissance de commutation. Il y a deux, trois petits transistors qui peuvent redémarrer. Là, on a un oscillateur à découpage pour l'alimentation de 120 volts. On a plein de petits modules qui peuvent être récupérés et dépanner d'autres cartes.
Ah oui, d'accord. Donc, vous vous servez au fur et à mesure des composants pour d'autres réparations ?
C'est exactement ça.
C'est optimiser véritablement la...
Le but du jeu, oui.
Ah ouais. Vous êtes finalement aussi un peu militant de l'environnement, on pourrait dire, globalement, pour pas tout ce qu'on jette qui pourrait être réemployé.
C'est ça. Ah oui, ça me démangeait depuis très très longtemps. Et, étant à la retraite depuis 2021, j'ai repris cette passion de l'électronique et quand j'ai fait 2-3 sauts à la déchetterie, quand j'ai vu tout ce qu'on balançait, j'ai dit il faut faire quelque chose, quoi. Donc tout en sachant qu'on peut récupérer, que ce soit une carte électronique, une machine ou quoi que ce soit, on peut la récupérer pour pouvoir en extraire des pièces détachées pour en dépanner une autre, ou ainsi de suite, quoi. À côté de ça, ça permet aussi par exemple, quand la machine est foutue, ça évite, il y a un tri qui est fait, et le métal, le plastique, je neutralise tout ce qui est batterie, pile, machin et tout le bataclan, et fait qu'après on se retrouve déjà, tout est renvoyé en déchetterie sélective, et après ça... Après, c'est à la charge de la déchetterie, le métal, le plastique, et ainsi de suite. Voilà.
En tout cas, c'est gérer beaucoup d'appareils déjà, vu l'arrivage qui est disposé sur les tables. Ça représente pas mal d'appareils. Et là, on va se diriger du côté de votre atelier, où c'est beaucoup plus facile de bricoler. Nous voilà dans l'atelier. Ben, c'est bien rangé, on peut dire. Hein. Tout est bien ordonné. Des appareils disposés, prêts à être réparés. Il y a toutes sortes de choses. Hein. On peut recevoir un magnétophone à bande, même d'autres machines.
Alors là, on a une anthologie du magnéto à bande, qui est le très haut de gamme. C'est un Revox, un A770. C'est quelque chose de très spécifique. Et ça date des années 78. J'ai commencé la réparation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de condensateurs qui, en vieillissant, ont complètement séché et c'est tout à changer. Pour le moment, il est en stand-by parce que le client en veut plus et c'est pas réutilisable. Le bébé fait quand même 17 kilos. Hein.
Ça paraît pas.
Hein.
Mais les composants étaient beaucoup plus lourds à l'époque.
Ouais, et puis surtout, c'est qu'il y a une motorisation, on était dans l'efficacité, oui. C'était du matériel pratiquement professionnel. Hein, ouais, ça. Ouais. On est dans le haut de gamme de ce qui se faisait dans les magnétos à bande.
Alors, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est quand on vous apporte un appareil comme ça, il n'y a pas de schéma électronique qui sont associés. Comment vous faites ?
Alors, justement, c'est là que l'expérience et mon parcours professionnel me permettent d'analyser toutes les cartes qui sont... Alors évidemment, il faut savoir comment marche un magnétophone. Si on ne sait pas, ça va être compliqué. Mais une fois qu'on sait le principe de fonctionnement d'un magnétophone, après, on analyse toutes les cartes, les cartes d'alimentation, les cartes de préamplification, les cartes d'oscillation, et ainsi de suite, tous les calages mécaniques, le principe de la bande, ainsi de suite. Et chaque chose est vérifiée à chaque fois, alors testée avec un oscilloscope, des contrôleurs, et ainsi de suite.
Il y a des appareils, alors vous avez un faible hein, pour l'audio, hein, ce qui concerne la réparation.
Tout à fait, oui. En ce moment, bon, ben, il ne me reste plus grand-chose en audio à dépanner, à part un joli Harman Kardon.
Ah oui, il est imposant. Bel ampli.
Un ampli tuner, quelque chose d'assez, déjà, de bien marqué, on va dire. C'est l'AVR 230, qui a un petit souci de capteur optique. C'est-à-dire qu'il a une liaison optique avec une autre source. Résultat des courses, c'est de savoir pourquoi il est... Bon, je n'ai encore pas attaqué. On a une table de mixage. Ouais. Ouais, il y a je crois que celle-là, elle fait 10 entrées. J'attends les composants électroniques. Depuis quelque temps, malheureusement, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, pour avoir des composants électroniques, c'est très, très difficile.
Ah oui.
Oui, très, très, très difficile. Et ça vient évidemment de toute Chine, la plupart du temps. Et les grands distributeurs, suite à la guerre en Ukraine, pas mal de choses sont bloquées ou pas distribuées. Enfin bon, ça vient, en ce moment, ça devient très, très compliqué. Mais bon, ça va repartir certainement d'ici le mois prochain. Là, on a un portable qui a été récupéré à la déchetterie. Portable qui fonctionne.
Ah bon ?
Que j'ai ramassé dans la déchetterie. Là. Bon, on peut voir l'état qui est pas si mal que ça. Le disque dur a été enlevé. On va donc remettre un disque dur et on va réessayer tout ça et point barre.
Voilà, ça a nécessité quand même une intervention de votre part avant que ça reparte.
Ah oui, bien sûr.
Donc vous avez donc changé le disque dur, c'est
oui,
ça ?
Oui, et si après il sera, une fois que... Non, tu ne l'as pas encore fait, hein, le disque dur, je ne l'ai pas encore commandé. Alors, ouais. Mais ce qui va se passer pour ce PC portable, c'est qu'il va être complètement démonté, révisé, nettoyé électroniquement. Et au niveau des... le disque dur, il n'y est pas. Donc, on va réinstaller des Windows 10, certainement dessus, voir si c'est possible. Enfin, on va en tirer le meilleur parti pour pouvoir soit... Après, il va être soit revendu ou soit cédé à des associations ou si quelqu'un a besoin d'un... Voilà.
Vous avez une grande table avec tout un tas d'appareils.
En ce moment, je suis sur une commande radio d'un treuil pour débarder le bois.
Oui. Tout type de domaine, hein, professionnel.
Ah. Alors, il y a quelques soucis avec la batterie, j'ai quelques soucis avec le système de recharge électronique, et le bouton d'arrêt d'urgence de la télécommande est cassé. Donc là, je suis en plein dedans, je suis en train de faire la recherche, parce que je soupçonne un micro-relais qui serait HS, et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'analyse du système. Alors, ce système-là, il commande un moteur, un treuil, qui tire des câbles, une élingue, pour aller tirer le bois dans les forêts. Le treuil, évidemment, est monté sur un tracteur, et le moteur est relié par radio à ce boîtier-là, puisque c'est une communication radio à 430 MHz en moyenne.
La réparabilité aussi, c'est quelque chose qui évolue. On peut supposer maintenant qu'il y a plus un phénomène
Alors là, on attaque le gros morceau.
Ouais. La corde sensible un peu, non?
Ah oui, là, c'est là où je maudis certains constructeurs et l'évolution que prend la tournure de la réparation, que ce soit par exemple pour une machine à laver. Là, on est à la fois dans l'obsolescence programmée et dans la non-réparabilité. Changer une carte qui vaut 300 balles sur une machine qu'elle valait 500, je ne trouve pas ça réparable. À cause de ça, si on veut réparer la carte, tout est fait de la part du constructeur, surtout plus en plus, vers la non-réparabilité, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas les composants, ou alors ils sont préprogrammés en usine et il faut les faire programmer par le constructeur pour les recevoir, pour les changer. On voit qu'il n'y a pas une volonté vraiment correcte de pouvoir.
Le développement durable en prend un coup.
Tout à fait. Alors, je ne parle pas des portables, où là, c'est pire, parce que là, où pratiquement, on ne pourra plus ouvrir et on ne pourra plus changer la batterie nous-mêmes. Alors, c'est avec comme ça, vous serez obligé de passer par les constructeurs pour pouvoir. Je trouve ça est quand même largement inadmissible.
Oui, c'est curieux parce qu'on pourrait tendre à croire que maintenant on entre dans une nouvelle ère où les choses sont plus interchangeables, mais on continue dans cette impasse du non réparable.
Tout à fait. C'est-à-dire que l'électronique a permis de faire beaucoup de choses, hein, de faire des programmes très savants, par exemple sur la même machine à laver que je disais tout à l'heure. Mais à côté de ça, les constructeurs se font un malin plaisir de pouvoir pas accéder. Alors, les plans électroniques, il n'y en a pas, évidemment. Il n'y a pas non plus de moyen de pouvoir préprogrammer ces composants, hein, ce que j'appelle des micro-P, des équivalents de microprocesseurs d'interfaçage. Ces éléments contiennent donc des parties mémoire qu'on appelle des ROM. Et ces ROM, elles sont préprogrammées en usine. Donc, si une fois que vous avez la carte, ben, la carte arrive chez moi, la machine à laver, il manque des fonctions, ou la plupart du temps, ça pilote le moteur, par exemple. Changer encore la commande moteur, c'est possible, mais changer le microprocesseur qui lui commande ces pièces-là, c'est impossible, quoi. Donc, on voit que la réparabilité, malgré ce que défendent les constructeurs, on en est loin, quoi. C'est encore, on a même aggravé le sujet. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rentré une machine, un lave-linge. Ben maintenant, on ne peut même plus démonter la cuve. La cuve, elle est entière. C'est-à-dire que s'il faut changer le roulement, par exemple, de cuve, eh ben, on change tout. C'est d'une absurdité et pour moi, c'est plus de la réparabilité. C'est plutôt un commerce. À côté de ça, il y a plus en plus de sites qui se montent à l'heure actuelle sur plan national, international, ainsi de suite, de pièces détachées. Là, on voit des prix. La même pièce, par exemple, sur un lave-vaisselle peut aller du simple à voir 4 à 6 fois le prix, quoi. Il y a même des constructeurs qui ne vendent pas leurs pièces détachées. Ou alors, si on les prend, par exemple, chez le constructeur, elle va 3 ou 4 fois le prix que ça vaut réellement. Donc, on voit qu'il n'y a pas la volonté vraiment de faire perdurer une machine à laver longtemps, quoi.
Là, on rentre dans le domaine du consommable au niveau des machines, un peu comme les cartouches d'encre.
Tout
C'est
à
un petit
fait.
peu
Ah
ça.
bah, alors, les cartouches d'encre, je suis révolté. Il y a des imprimantes au fond, là. Je suis révolté parce que le bloc de cartouches, de 4 cartouches couleur, c'est le prix de l'imprimante, quoi. De toute façon, maintenant, je ne la répare même plus. Elle part directement en déchetterie. Ça ne sert à rien. Une fois que la tête est complètement mangée par l'encre, c'est plus la peine, on ne peut plus rien en tirer. En plus, toutes les imprimantes sont encore, malgré les dires de certains, que ben, y a toujours ce fameux petit programme qu'on va lire dans la cartouche pour vous renvoyer à acheter des cartouches de la même marque, au prix-fort, évidemment. Je trouve ça quand même. J'ai connu ça dans les années 90, mais je vois que ça devient de pire en pire. Alors, au départ, la machine, elle ne vaut rien. Après, si on veut l'entretenir, au lieu de la mettre en déchetterie, en plus, il y a pas mal de polluants dans ces machines-là. Enfin, je trouve ça révoltant.
Est-ce qu'il y a des machines que vous affectionnez de réparer plus que d'autres? Il y a des domaines dans l'électronique que vous affectionnez, où vous vous faites plaisir véritablement à réparer?
Alors, d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est le truc que j'ai jamais vu, et puis surtout le truc complexe. Alors, il y a certains ordinateurs, par exemple, et puis il y a les machines industrielles, des variateurs de puissance, comme là. C'est la
Ah
source
oui.
des commandes moteurs, des moteurs de 12 kilos. Ça, c'est l'exceptionnel, on en fait rarement. Ou alors, si, y a un truc qui m'amuse bien, c'est les robots ménagers. Ici, on a un Roventa.
Un robot ménager. Ah oui, un robot, un aspirateur.
C'est ça. Alors, mon Dieu, l'électronique qui est embarquée là-dedans. Bon, au départ, je pensais que c'était hyper complexe, mais en fin de compte, après analyse, c'est maîtrisable et bon. Par contre, c'est très difficile à ouvrir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'appareils où c'est pratiquement impossible de les ouvrir. Pour les ouvrir, c'est pratiquement un nouveau robot, quoi. Faut y aller des fois fort. Là-bas, on a un robot de piscine. Bon, j'ai commencé hier, mais je n'ai même pas réussi à l'ouvrir encore.
Déjà, ça commence par ouvrir la machine. Mais c'est quand même curieux, puisque maintenant, il semblerait que... émerge sur les appareils des indices de réparabilité, ça devrait faciliter un peu les choses, non ?
Alors,
c'est pas encore tout à fait développé ou...
C'est développé, enfin... ça dépend comment on voit la chose. C'est-à-dire que si on voit la chose de la part des constructeurs, la réparabilité, ils la basent sur la fréquence de panne de l'appareil. Alors, à ce stade, je suis incapable de dire si un appareil tombe plus en plus ou en panne. Il semblerait que ça a vachement diminué. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une fois qu'il est en panne, après, rien n'est fait pour faciliter la réparation. Comme je disais sur les cartes électroniques embarquées, par exemple, dans les lave-vaisselle ou lave-linge, par exemple, ou les télés. C'est un truc de dingue. Mais il faut savoir maintenant que c'est la nouvelle génération de téléphones. On ne peut plus changer la batterie parce que les constructeurs ont mis une petite mémoire à l'intérieur de la batterie, ça fait que faut changer la batterie et la mémoire qui se trouvent dans l'ensemble. Résultat des courses, donc on est obligé évidemment de prendre la batterie chez eux. Donc la réparabilité pour moi, c'est la forme de communication qui est faite à l'heure actuelle sur la réparabilité. Moi, je la trouve à la limite même insultante, quoi, parce que c'est pour moi c'est pas le cas. Enfin, avec tout ce que j'ai vu pour le moment, c'est pas le cas.
C'est du merchandising d'évoquer ça. En fait, ça fait partie du business de donner des labels comme ça de réparabilité.
Disons que ça date de vieux, ça. D'après mes souvenirs, ça date depuis les années 90, où ça a commencé par le classement énergétique. Et suite à l'évolution de la valeur énergétique, j'y reviendrai sur les valeurs énergétiques. Sur la réparabilité, donc sur le coefficient énergétique, enfin ce qu'on appelle le label éco-énergique. On a commencé ça dans les années 90-2000, ce qui était une très bonne chose, parce qu'avant, une machine, c'était facilement 22 litres, voire 40 litres, et 2000 watts de consommation électrique. Maintenant, on arrive à des choses où on arrive à des machines à 7 à 10 litres, avec tout un système de... Même maintenant, il y a des systèmes de récupération d'eau. Et puis, l'énergie électrique, elle est diminuée de... On est passé largement en dessous de 10 000 watts. Donc, il y a quand même un gros progrès là-dessus. C'est surtout dû à la gestion électronique du moteur et à la gestion de la détection de l'eau, et ainsi de suite, donc à l'électronique. Comme quoi, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de souci. Après, les pannes ne sont pas aussi fréquentes qu'il y avait auparavant, parce qu'avant, les machines duraient plus longtemps. Et la gamme d'appareils était moindre, et on avait une certaine fiabilité sur la robustesse. Maintenant, il faut savoir que ça soit n'importe quelle marque, toutes les marques utilisent les mêmes composants. Donc les mêmes moteurs, les mêmes... le peu de variantes qu'il y a, c'est rien de très spectaculaire. Par contre, dans le bas de gamme, on va avoir une machine qui va avoir très peu de sondes, par exemple de température, de salubrité d'eau, ou ainsi de suite, on vérifie la pression, par exemple, qu'il y a dans la cuve, et ainsi de suite. Donc, évidemment, une machine haut de gamme, il y aura beaucoup plus d'électronique, de sondes, de détection, on prend soin plus de l'eau, et ainsi de suite. Ça a un gros avantage, mais surtout, c'est qu'on met de plus en plus d'électronique. Si les sondes C'est la plupart des la source de panne des machines dites modernes, c'est les sondes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si votre sonde elle voit plus ce qu'elle doit voir, si ce n'est par exemple que la température, l'électronique va s'arrêter et après, ben, vous aurez un affichage de défaut sur votre machine, puisque maintenant, ça aussi, ça date des années 2000, enfin 90-2000. Mais à côté de ça, l'électronique... si on la piège avec, par exemple, ce que je répète, avec des mémoires internes pour gérer, par exemple, la sonde de température, ça fait qu'après, la carte, ben, faut changer la carte. On ne peut plus réparer. Il faut changer la carte et changer la sonde. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et l'analyse est très, très importante. Ensuite, un truc que je tiens à cœur, parce qu'il y a beaucoup de machines, ça m'arrive assez souvent maintenant, c'est que je les remets... certaines machines à laver, certains fours, certains appareils qui sont très énergivores. C'est-à-dire qui sont des appareils anciens, mais qui sont très énergivores. Par exemple, comme certains frigos qui montaient à 400 watts, en congélateur, par exemple, 400 watts, 200 watts. Ceux-là, je ne les remets pas en circulation. Pour la simple raison, c'est que je ne veux pas refaire partir un appareil qui est...
Absurde, quelque part, un peu.
Oui, qui est complètement absurde, pour se retrouver avec une consommation électrique très élevée. Donc, le but du jeu, c'est justement, d'un côté, d'éliminer ces appareils-là, et puis d'un autre côté, c'est de rester dans une forme d'énergie qui soit le plus juste possible. C'est ça aussi le but, mon but, quoi.
Alors là, je vois un vieil électrophone. C'est quelque chose auquel vous êtes attelé aussi à réparer.
Alors ça, bon, ça c'est 75. Alors c'est un enfant grounding, c'est stéréophonique avec tuner. C'était un modèle, sincèrement, c'était un produit allemand grounding. Il fallait aimer le design allemand à l'époque. C'était tout comme ça, hein. On était dans les années 70.
Ça ressemble à Telefunken un peu aussi.
Tout à fait. C'est la même origine. Hein. Ouais. Parce que Grounding et Telefunken ont toujours travaillé séparément. Il faut savoir que Telefunken, on leur doit beaucoup de choses. Par exemple, la fabrication de systèmes de décodage couleur sur les télévisions. Par exemple, certains circuits intégrés qu'on doit retrouver bien après et qui vont servir d'ailleurs dans beaucoup de choses. Et puis Grounding, pareil, avec leurs propres composants. Alors ça, c'était un ensemble qui valait très cher pour l'époque. Mais sincèrement, ça vaut pas un pet de lapin.
Et c'est quelqu'un qui vous a apporté ça pour le réemployer ou c'est quelqu'un?
Alors c'est quelqu'un qui m'a apporté ça pour le remettre en état. Alors il marche. Sauf que la platine, une platine duale, alors ce qui se faisait de pire à l'époque... avec une tête céramique de lecture. Alors déjà, au départ, même neuf, je m'en rappelle, ça ne marchait pas. Alors. Là, c'est, alors, en vieillissant, en plus, il y a 2-3 erreurs qui ont été faites. Ils ont collé le plateau. Enfin bon, c'est ce qu'il fallait surtout pas faire. Donc ça va repartir. Alors j'hésite entre soit ça va aller à...
au musée de l'Alfie.
Ouais, malheureusement, ça vaut rien. Puis c'est pas exceptionnel, quoi.
Ah oui,
ça va repartir certainement chez Emmaüs. Pourquoi chez Emmaüs? Parce que Emmaüs, il retraite une bonne partie de tout ça et ça repart pour une dizaine d'euros dans un atelier là-bas à Romans. Et on fait cadeau. Comme j'ai fait cadeau pas mal de frigos. Parce que je ne fais pas le gaz froid des frigos. Donc ça repart, je les amène là-bas. Eux, ça leur rend service. Et puis à côté de ça, au lieu de retrouver ça en déchetterie... À côté, là, on a... Alors ça, par contre, ça, c'est de l'anthologie, ça. Là, on a une SLD2, une SLBD2. C'est une Technics, Platine Technics. Ça, c'est la génération qui est sortie juste après. Là, on est dans les années 90. Avec moteur à induction... contrôle de la vitesse, détecteur optique de la vitesse et tout un système de bras très spécifique. On est dans le haut de gamme de ce qui se faisait à l'époque dans la platine. Il faut savoir que la MK2, c'était la platine préférée des DJ. C'est la première platine où on mixait avec. C'est du hyper costaud. C'est d'une qualité sonore, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est déjà du... Celle-ci, elle sera montée avec une... Elle sera vendue, parce qu'elle sera revendue, celle-là. Elle sera revendue avec une tête Rega.
Et puis le poids aussi va avec, hein. Ça fait des fois les éléments lourds, ça peut être gage de solidité aussi.
Tout à fait. Ah bah, c'est rien à voir avec les platines de supermarché qu'on trouve, platines tendues, qu'on trouve un peu partout.
Sur des vieux appareils, il y a des composants que l'on ne retrouve plus maintenant. Il y a des moyens de se dépatouiller.
Tout à fait. On peut même réussir à dépanner des postes à lampe, par exemple, avec des tubes électroniques qui datent des années 50, par exemple. On en retrouve aux États-Unis, même en France, d'ailleurs. Le composant passif, ce que j'appelle le composant passif, ça va du condensateur à la résistance, on en trouve de partout. C'est pas le problème. Il y a que là, je suis sur un groupe d'amplificateurs de sonorisation, ce qu'on appelle le PP1200. Le PP1200, il y a certains transistors sortis des amplis et qui est difficile, parce que c'est des anciennes fabrications des années 70 de transistors japonais. Mais tout est trouvable.
Après, il y a aussi une notion d'esthétique dans l'électronique, dans les appareils où vous dites « Ah, ça, c'est bien, c'est beau. »
Oui. Oui. Ah, par exemple, pour les PC, c'est certain que là, il n'y a pas photo, mais il y a une marque très, très connue qui... Ah, c'est magnifique. C'est d'une... pourrait même l'exposer, la carte, tellement c'est beau. Puis après, évidemment, l'électronique... si on prend un ampli Marshall des années 80, c'est magnifique. C'est des montages à la main, des cartes, tout est monté à la main. Évidemment, bon, on ne les trouve pas facilement. Et en plus, la plupart du temps, c'est des appareils qui sont d'une qualité exceptionnelle. Donc, quand j'en ai à réparer, on remet la même qualité. Il est hors de question de mettre des composants qui soient inférieurs à l'original. Et puis, la plupart du temps, on peut faire même beaucoup mieux. Par exemple, sur l'obsolescence programmée de certaines plaques à induction, on va aller changer les condensateurs, par exemple, de puissance, par des condensateurs plus résistants, soit plus gros en capacité, et en montant la tension au bord du condensateur, pour éviter l'usure du condensateur trop vite, quoi. Ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, par exemple, sur certaines cartes qui sont montées, par exemple, dans les téléviseurs ou les fours à micro-ondes, ou ainsi de suite, tout ce qu'on veut, quoi.
Et est-ce que vous observez une signature électronique selon les pays qui est différente? Dans l'audio, on voit bien qu'entre les États-Unis, l'Angleterre, chacun a sa manière de penser l'électronique.
Quand on est dans le produit de marque et qui est d'origine anglaise ou américaine, ou même française d'ailleurs, je pense à pas mal de marques françaises, c'est certain qu'il y a une signature, il y a une certaine rigueur, mais là on rentre dans les appareils évidemment de haut de gamme, hein. c'est pas tout le reste, c'est-à-dire que ce soit votre PC, que ce soit votre aspirateur ou votre machine à laver, ça reste de l'électronique basique, hein. Tout est fait, il faut savoir que tout est fait pour rechercher le composant le moins cher. On se retrouve avec une carte électronique qui fait après à peine 200 grammes, quoi. Voilà, par exemple. Alors, ça fait que là-dessus, les composants valent moins cher que le cuivre, du tas des courses. Donc tout est fait pour rechercher le meilleur rapport qualité-prix pour simplifier. Alors évidemment, c'est beaucoup plus léger. C'est plus économique puisque ça bouffe moins de courant. Mais par contre, c'est sensible aux champs statiques, aux surtensions, aux coups d'orage évidemment, et à tout ce qui peut se balader sur le réseau 220 volts.
Alors là, c'est pas de la friture électronique, on entend, c'est la pluie qui tombe sur l'atelier. Quand on évoque le bon son sur des systèmes, c'est quand même toujours lié à l'électronique, hein, finalement. C'est un peu dans l'aménagement des composants, la qualité des composants, un peu de deux.
Oui, c'est surtout les composants et puis le montage qui a été fait. Bon, le montage, il n'a pas bougé depuis pratiquement la naissance des amplificateurs, hein, c'est-à-dire l'époque, les premiers pas de la radio. évidemment, c'est le montage qui fait tout. Et puis surtout, c'est le haut-parleur qui est derrière, quoi. Donc, un mauvais haut-parleur avec le meilleur ampli du monde, vous aurez toujours un son qui correspondra à la valeur du haut-parleur. Par contre, on peut faire avec des très bonnes enceintes, avec un ampli très moyen, on peut obtenir une qualité sonore qui reste valable. Bon, après, ça dépend ce qu'on veut entendre et ce que vous, enfin, qu'on veut faire avec.
Vous privilégieriez plus l'enceinte que l'ampli?
Ah, de toute façon, oui, il vaut mieux privilégier l'enceinte que l'ampli. Le problème, c'est que des enceintes de qualité et de haut de gamme, pour les faire bouger, il faut un courant important à envoyer. Donc, ce n'est pas à la portée de n'importe quel ampli. Mettre un ampli de 40 watts sur des focales, par exemple, de 100 watts, ça bougera. On n'aura pas le même rendement, mais ça bougera. Par contre, si on met un ampli, un Harman Kardon, par exemple, de 100 watts sur des focales de 100 watts, là, ça commence à devenir vraiment très, très, très intéressant.
Ben merci beaucoup en tout cas pour ce tour d'horizon de voir la manière d'aborder l'électronique et puis tout ce qui concerne les réparations. Vous êtes ouvert à tout type de réparations. Comment peut-on faire pour vous contacter ou
alors me contacter par mail. Par mail.
Oui, ben je vous laisse Christian donner votre mail.
Alors c'est Mathon, MATHON 59@gmail.com. Voilà. Et puis autrement au 06 49 45 46 18. J'aime bien communiquer par mail parce que ça permet de donner une analyse complète de l'appareil que j'ai à réparer au client, enfin à la personne qui a l'appareil, et de faire un reportage photographique.
Avoir un peu des pièces.
Comme ça, en même temps que je répare, j'explique. C'est-à-dire que le cheminement de la panne, pourquoi, comment, à quoi c'est dû. À 60%, 70%, on y arrive à savoir exactement ce qui s'est passé. Par contre, sur certains appareils, c'est pratiquement impossible.
Et avec l'expérience et les appareils que vous connaissez, vous, des fois, même sans ouvrir l'appareil, vous avez déjà une idée de ce que cela peut être.
Au début, oui, quand on voit l'appareil, je me fais quand même un malin plaisir de regarder quand même dedans, parce qu'il y a des fois aussi, j'ai des belles surprises. Alors, des surprises qui sont positives, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était un petit composant ou pas grand-chose. Et puis, il y a des fois, c'est plus sévère, c'est toute une commande de chaîne par un transistor MOSFET ou ainsi de suite.
Voilà, tout type d'appareil, hein, donc la Hi-Fi très largement, télévision, vous parlez même d'aspirateur, robot ménager, tout ce qui est à l'électronique en fait, sans exception.
Sans exception. Des années 30 aux années maintenant. Si l'appareil est encore sous garantie, je vous conseille quand même d'aller porter... en garantie. Et s'il est hors garantie, au lieu de le mettre à la déchetterie en racheter un autre, je vous invite à me l'apporter, même si vous n'en voulez plus, vous me l'apportez, il sera retrié et une petite partie sera remise en circulation sur un composant, ça peut être pour dépanner autre chose ou dépanner une autre machine du même type. C'est ça le but du jeu, c'est d'essayer de... Ce que j'essaye de faire, c'est de recycler au maximum. Par terre, là, on voit des ordinateurs où ceux-là, ils sont en phase d'être démontés. Les alimentations, par exemple, sont récupérées. Les cartes mères sont récupérées. Le disque dur, ainsi de suite. Après, on refait un autre tri. Tout va être démonté. La ferraille d'un côté, les ventilos, tout, les cartes électroniques vont être récupérées. Et ça repart pour autre chose.
Ça pourrait suggérer bien aussi, pourquoi pas, des fois, des ateliers qui s'organisent avec des gens qui puissent eux-mêmes un peu voir la réparation de leurs appareils.
Alors, ce que j'aime bien faire, c'est donner des explications de vulgarisation de l'électronique. C'est-à-dire comment ça marche, pourquoi, comment. Et ça, on peut, même sur les bases de l'électricité, donner des cours de formation de vulgarisation de ce qu'est l'électronique, de ce qu'est l'électricité. Ce qui permet à certains gens, s'ils sont intéressés, d'en savoir beaucoup plus. Mais le mieux, c'est encore de passer me voir. Alors, appelez-moi parce que non seulement il y a l'atelier, mais il y a aussi les dépannages extérieurs. Ça va de l'industrie aux particuliers. Ça peut aller sur des installations. Hein, des installations de tout type, que ça soit une alarme ou que ça soit... rien ne m'arrête.
Mais en tout cas, on ne va pas vous retenir, justement. Merci beaucoup, Christian.
C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne journée.
Voilà. Depuis Saint-Nazaire, pour cette visite de votre atelier.
Merci.